Bonjour à tous. Bon, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour écouter les propos de Cécile et de Ludovic Lamarck. Donc c'est en avançant dans la lecture du roman de Ludovic, je suis le sens que j'ai été frappé par beaucoup de points communs que je trouvais avec la série de Cécile Holmes. Et donc on a pensé à la librairie que ce serait intéressant de faire une rencontre croisée entre ces deux auteurs qui par ailleurs se connaissent un peu à l'extérieur et pour qu'ils puissent évoquer ensemble leurs œuvres respectives. Donc dans un premier temps, je leur poserai quelques questions sur leur processus et leur procédé créatif et narratif. Et dans un deuxième temps, on parlera plus précisément de la série Holmes et de Je suis le sang. Donc j'ai à ma droite Cécile, qui a été libraire BD, illustrateur, publiciste, qui a initié le projet Réseau Bombis et qui l'a dessiné, un succès critique et public, et qui est donc actuellement travaille sur la série Holmes, dont le tome 4 est paru en fin d'année dernière. Avec Luc Brunswick comme scénariste.
Brunswick,
pardon. Et à ma gauche, Ludovic Lamarck, journaliste, photographe. Un premier roman dans la collection Lune d'encre de Noël, un roman de SF, Ad Noctum. Et actuellement, auteur de Je suis le sang, aux éditions Des moutons électriques, qui est paru en début d'année.
Avril 2016, voilà.
Alors, pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet, moi, une des choses qui m'a frappé et par laquelle je souhaitais commencer, c'est l'aspect en fait de travail en couple, de travail à quatre mains précisément, puisque donc Cécile, vous travaillez avec un scénariste et Ludovic avec vous avez un co-auteur qui s'appelle Pierre Portrait. Et donc, voilà, je souhaitais évoquer avec vous cette manière de travailler. Donc, Cécile, peut-être, pour commencer.
Oui, tout d'abord, dans la bande dessinée, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent de voir des couples et scénaristes et dessinateurs s'associer pour développer des projets. La particularité de notre projet, avec Luc, c'est que là, nous sommes tous les deux à l'origine du scénario. Donc, Luc étant déjà un auteur confirmé à l'époque où je l'ai rencontré et ayant une grande qualité pour tisser les intrigues et les dialoguer, j'ai été intéressé de pouvoir développer avec lui un sujet qui nous passionnait tous les deux. On se connaissait déjà, on travaillait chacun de notre côté, on était amis. Et le fait de m'entendre aussi bien avec un scénariste et un scénariste ouvert qui était prêt en fin de compte à conjuguer ses propres idées avec les miennes, ça nous a permis de pouvoir développer la série Holmes. Mais c'est quelque chose d'assez, pas unique, mais assez rare dans le métier. La plupart du temps, un scénariste nous fait une proposition. Nous, on arrive avec une traduction graphique. Et là, c'est vraiment quelque chose que l'on a fait naître aussi bien scénaristiquement que graphiquement ensemble. Parce qu'au début, j'étais parti dans certaines voies graphiques et... à travers nos discussions, l'aspect de la série a changé, mon dessin a changé, et on peut vraiment dire que nous faisons ça à quatre mains dans les deux domaines, dans le dessin, la narration et le scénario.
Ouais. Et Pierre Portrait.
Pierre et moi, c'est une amitié longue date. On se connaît depuis plus de 25 ans. Et effectivement, autant c'est assez courant le travail en binôme dessinateur-scénariste dans la BD, autant deux auteurs, deux romanciers qui travaillent à quatre mains sur un même roman, c'est un petit peu plus rare. Et en fait, on s'entend très bien et on avait commencé à la fac un premier roman qui n'a jamais vu le jour, mais en fait, ça, on s'est fait la main dessus et on est devenus amis en devenant auteurs. Ça s'est fait comme ça. Et puis, on travaille de manière assez particulière. Comme il est à Paris, je suis à Bordeaux. Donc on travaille par téléphone, on a des réunions hebdomadaires, on passe des heures et des heures au téléphone, comme des ministres, et on travaille par mail, on travaille par texto, et quand l'un a une idée, il appelle l'autre, il lui soumet l'idée, on en discute, on la retravaille, on la tord dans tous les sens, et puis si elle tient la route, ben on la conserve, et puis on commence à faire un travail de biographique, de recherche, de lecture. Donc là, pour Je suis le sang, il fallait prendre à bras le corps à l'époque victorienne. Donc ben ça dépend, suivant le projet, qui se sent le plus à même, plus à tact de travailler là-dessus. Donc on a travaillé ensemble le scénario, l'intrigue, les personnages, les procédés narratifs. Et donc Pierre s'est plutôt penché vers, quand on a fait cette première étape ensemble, il s'est plutôt penché vers l'écriture des journaux. On a écrit des journaux comme à l'époque, puisque la presse avait un très grand rôle dans l'affaire de Jacques Léventreur. Donc il s'est penché plutôt là-dessus. Et je me suis penché, moi, sur le premier jet. Et ensuite, il a lu et on corrige, on se renvoie la balle. C'est un jeu éternel de ping-pong. Et finalement, comme on s'entend très bien, on se dispute jamais. Donc on continue. Et puis voilà, donc c'est le deuxième. Et voilà.
Est-ce qu'il y a finalement l'élément central un peu de la relation que vous pouvez avoir comme ça, c'est une sorte d'émulation en fait. Est-ce que vous suivez toujours le même rythme ou est-ce que parfois il y a comme des défis qui sont jetés l'un à l'autre ou...
Alors des défis, j'irai pas dans ce sens, mais effectivement on crée aussi un petit peu en décalé, c'est-à-dire qu'en amont on parle beaucoup de l'histoire et une fois que l'on est tout à fait d'accord sur la façon dont on va la développer, sur la rythmique qu'on veut lui donner, Luc de son côté va commencer à travailler et va se pencher sur une première phase qui est une forme de découpage dialogué qu'il va me soumettre et moi à partir de ces documents je me réapproprie en fin de compte tout le travail de mise en scène parce que la plupart du temps de nous deux c'est moi qui fais tout ce qui est recherche iconographique et historique. Et à partir de ce travail-là, je remanie certaines scènes, parce qu'il y a des moments, il y a des anachronismes, des comportements qui ne correspondent pas à l'époque. Et puis émotionnellement, comme on sert les mêmes idées, réellement les mêmes intentions, j'essaie par moment, par le dessin, de rendre au maximum l'émotion qu'il me proposait dans son découpage, qui des fois, lui n'étant pas dessinateur, dans sa proposition n'est pas toujours très pertinent ou il l'est, mais on peut affiner la chose. Donc après, une fois que tout ça je l'ai établi et que je le storyboard, c'est-à-dire je fais une forme de page de bande dessinée dessinée très rapidement, je lui envoie, et là, c'est lui qui prend du recul, qui réfléchit sur la chose, et qui, par moments, sur des petits détails, va modifier quelques morceaux de dialogue, va me demander d'affiner le geste d'un personnage, ou des choses comme ça. Et donc, cette conjugaison fait que, effectivement, comme on est un petit peu en décalé, pas au démarrage, mais dans le cadre de la réalisation finale de la page, on a toujours des moments de recul sur l'étape de chacun, et ce qui nous permet de... Voilà, de l'améliorer, et sommet du sommet, on a un très bon directeur de collection au sein de la maison d'édition Futuropolis, qui lui-même, une fois le produit fini, nous recommande la chose et amène aussi son point de vue, et c'est sans faire d'ingérence, et c'est très 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 agréable.
Alors, je ne dirais pas qu'il y ait de compétition, enfin c'est plutôt de l'émulation, c'est-à-dire que quand il y a un passage à vide de l'un ou de l'autre, ça fait du bien de décrocher le téléphone. Bon là en l'occurrence on est loin donc c'est le téléphone, mais d'avoir pas une épaule mais au moins quelqu'un qui écoute et qui me permette, quand c'est lui qui l'écrit, ben, il m'appelle, il me dit voilà regarde ce que j'ai fait, et puis l'inversement, on est le premier lecteur de l'un de l'autre. Donc en général, quand l'appel, il me dit pas bonjour, il me dit coupe. Il sait que c'est trop long déjà, donc il me dit coupe. Après, il me dit bonjour. Et quand il coupe, ben, c'est très bien. Donc voilà, il faut que ça reste un jeu, une passion, et il faut que ça reste amical. Et donc quand on est d'accord tous les deux sur l'idée ou sur la phrase ou sur la description ou sur le, eh bien on sait que c'est bon, donc on avance. S'il y en a un qui dit attends, ça me gêne, on en reparle, on raccroche, on laisse passer 2-3 jours et puis finalement ça, on avance comme ça. Donc C'est voilà, c'est très bien. Donc c'est plutôt une émulation et une écoute. Une écoute, et ça c'est important pour la confiance. La confiance de l'autre fait qu'on écrit avec sérénité. Voilà.
Et ça ne vous empêche pas d'imaginer travailler seul un jour ?
Ah oui, moi j'entreprends certains scénarios et des projets solo. C'est un autre rapport au travail, mais on cherche d'autres interlocuteurs. Pour mon cas personnel, ce sera mon épouse, par exemple, à qui je vais soumettre mes textes. Et puis pour le découpage, ben, je croise les doigts en souhaitant à un moment donné rencontrer un directeur de collection qui me fasse des retours intéressants et impliqué dans le travail que je fournirai. Parce qu'après, effectivement... C'est toujours difficile de pouvoir partager avec ou des amis proches ou des gens que l'on connaît qui ne sont pas impliqués dans le projet. Ils voient la particularité de la bande dessinée fonctionne sur ce principe d'ellipse et de lecture d'images elliptiques comme ça. Donc quand on propose ou on demande l'avis à des gens sur les pages que l'on fournit ou les dessins, ils ont du mal à voir la globalité et ils vont commenter plus un dessin qu'une narration pure. Donc c'est toujours un peu délicat. Donc on se retrouve assez seul pour ça, quand on est auteur complet en bande dessinée.
Ben, je finis un premier roman solo, un roman de fantasy. J'écris le premier chapitre demain. Donc voilà, et Pierre a écrit un roman de Blanche, je crois qu'il est en train de le finir, un roman de Blanche qu'il va soumettre à des éditeurs. Et puis moi, à la rentrée, là, le premier jet sera fini demain. Donc j'ai tout l'été pour le reprendre et je vais le présenter à la rentrée à des éditeurs. Voilà. Et puis bah, évidemment, il va le lire, comme je suis en train de lire son roman de Blanche, il va lire le premier jet. Donc là, il aura un œil de lecteur averti. Et donc voilà, il me lira peut-être moins de coupe que d'habitude, mais voilà, donc oui, c'est prévu. On reste avec des projets communs, il travaille en ce moment à notre futur projet commun, où il va s'y mettre bientôt. Et puis on a des ambitions personnelles, parce que parfois, certains sujets, on a envie de les traiter, et puis voilà, lui, il est parti dans une direction, je vais dans une autre, et donc voilà, mais il n'empêche qu'on reste le premier lecteur l'un de l'autre.
Oui, un autre point évidemment assez incontournable, c'est que c'est la reconstitution historique en fait. Ludovic, vous êtes passé d'un roman de SF très, très SF à l'Angleterre victorienne de la fin du 19e. Cécile, le réseau Bombis, c'était du fantastique, c'était déjà en partie une reconstitution historique. Mais avec Holmes, vous avez vraiment basculé dans le, tous les deux d'ailleurs, dans le réel en fait. Et on vous sent, quand on lit vos œuvres, on sent tout le plaisir que vous avez à fouiller et à restituer une période. Voilà, ce qui m'intéressait de savoir, pourquoi, enfin, qu'est-ce que vous aimez finalement dans le fait de reconstituer une période du mieux que vous pouvez en fait, Ludovic.
Ah. Et oui. En fait, le premier roman, c'était de la science-fiction, c'était une dystopie, donc c'était une science-fiction assez sombre, assez pessimiste. Donc, passé à l'époque victorienne, qui était une période assez sombre, c'était un changement tout en étant une continuation, parce qu'il y avait la figure du monstre dans le premier roman, et on a repris la figure du monstre pour la retravailler dans le réel. On avait fabriqué des monstres dans un univers totalement futuriste. Tout en s'imprégnant des travaux de la génétique, des recherches en cours. Et là, on l'a rencontré, on s'est pris de... pas d'affection, mais on a voulu se confronter au réel, et c'était un monstre qui a défrayé la chronique, qui est devenu un mythe, qui est devenu un symbole du mal. Donc on s'est dit, voilà. Et puis, il y a aussi une lecture. C'est surtout Je suis le sang, c'est d'abord une lecture. C'est la lecture d'un article du directeur du musée des vampires de Paris, Jacques Sergent, qui a fait une très bonne traduction de Dracula, une des dernières. Et il disait, il évoquait dans l'article le fait que Bram Stoker avait eu accès au dossier de Scotland Yard concernant l'affaire de Jack l'Éventreur. Il avait suivi l'affaire de près, puisqu'à l'époque des faits, il était à Londres, et qu'il se serait servi des faits, des crimes, pour comme source d'inspiration de Dracula. Donc on s'est dit, bah, très bien, allons plus loin, imaginons que l'écrivain a rencontré le tueur à l'époque, et on a essayé d'imaginer ce qui se serait passé entre les deux hommes, la relation, et donc le roman décrit cette relation, voilà, tout en montrant le décalage qu'il y avait entre les... L'intérêt aussi de s'occuper du réel, c'est de montrer les décalages qu'il y avait entre les deux mondes, l'East End et l'West End, les deux nations, comme disait d'Israeli, le premier ministre de la reine Victoria, il y avait les riches, les pauvres. Et donc l'écrivain bascule et fréquente les deux mondes, et on a essayé de montrer justement le gouffre, vraiment le gouffre, l'abysse qu'il y avait entre ce West End bien fait, riche, et cet East End glauque, malade, insalubre, lugubre, qui était le théâtre d'un lieu de crime d'un monstre. Et voilà, donc c'est ce réel-là, ce réel avec un goût de cendre et de sang qui nous a intéressés, parce que c'était aussi, quand on le regarde, c'est aussi une dystopie. Même si ça existait, on se dit, est-ce que vraiment ces gens vivaient dans ces conditions-là à l'époque? Voilà, le réel, c'est se confronter au réel, c'est essayer d'interroger aussi le présent, puisque quand on regarde le 19e siècle victorien, on tremble un peu quand on voit les correspondances qu'il y a avec notre époque. Voilà. Ça, je pense que Cécile aussi l'a noté.
Oui, tout à fait. Oui. C'est effectivement cet effet miroir que Luc et moi essayons aussi de développer. On part, tout comme Ludovic et son co-auteur, d'un personnage, pas fictif pour toi, mais...
Dracula l'est.
Oui, Dracula l'est, mais c'est effectivement, on parle d'une icône littéraire pour, en fin de compte, rentrer progressivement dans une réalité du 19e, dans la naissance même de ce qui fait actuellement notre monde, c'est l'industrie, et de tous les désastres et de ce qu'elle a généré aussi sur le plan de l'humanité. Et l'Angleterre est un noyau dur. Ce pays a fait naître cette forme économique. Et effectivement, c'est un effet loupe sur un phénomène social assez fort et très contrasté, comme a pu l'évoquer Ludovic. Donc effectivement, Luc a toujours eu, dans l'ensemble de ses séries, un discours social. Et avec lui, tous les deux, on met en place cet effet miroir. Du moins, c'est ce qu'on, sous couvert d'enquêter sur un personnage, un bourgeois issu d'une famille bourgeoise de cette époque, on rentre dans une forme de pensée et dans les résultats que ça génère aussi. Voilà. Donc effectivement, et au-delà de ça, moi, purement graphiquement, c'est une époque qui, sur le plan esthétique, était absolument géniale. Tout était soigné. C'était une époque où le moindre objet, même manufacturé, avait quelque chose. Il y avait de l'artisanat, et même dans la grosse production, l'industrie tuait pas encore cette règle esthétique de production. Donc ça, voilà, ça nous plaît.
Justement, oui, ce qu'on retient de entre autres, à la lecture de Holmes, bien sûr, c'est l'incroyable méticulosité que vous mettez dans la reconstitution quotidienne, en fait, des costumes, des bâtiments, etc. Mais il me semble autre chose d'extrêmement frappant, c'est l'expressivité des visages de vos personnages. Les visages de vos personnages sont, j'ai trouvé à la lecture de Holmes, sont incroyablement présents et forment comme un langage propre en fait à travers les albums. Et je me demandais d'où vous venez ce souci de représenter l'âme humaine en fait par les visages.
Alors. Ça découle de l'écriture aussi de Luc, qui a une façon de scénariser très très particulière, c'est-à-dire qu'au-delà de la forme dialoguée, il a une façon d'évoquer les lieux et les attitudes des personnages qui nous font prendre conscience que ces personnages énoncent des choses mais sont pétris d'une volonté pour les énoncer ou d'une toute autre volonté que ce qu'ils énoncent. Donc ça m'amène à devoir énormément travailler sur, au-delà même du travail des visages, même sur la façon dont je vais mettre en scène, ça me demande de travailler méticuleusement l'intériorité des personnages. Donc c'est ce qui donne peut-être cette prégnance à cette série, et en plus de ça, l'écriture particulièrement pour cette série de la part de Luc est gérée comme un amoncellement de huis clos, c'est-à-dire que même les scènes extérieures, en fin de compte, on peut très peu prendre de champ, parce que ce qui se joue entre les personnages est tellement fin que on reste assez près d'eux. En fin de compte, ou alors on va presque se poser comme un genre d'étranger en subjectif qui va vivre l'action en même temps qu'eux, tout en les observant. C'est assez particulier, donc c'est assez étouffant par moments, hein, parce que on a envie vraiment de prendre du champ. Il y a vraiment, par exemple, dans le tome 3, la scène de foule avec cette émeute. Si on regarde bien, il y a très peu de champ. On est dans la foule, oui. On est brassé par elle, bousculé par elle, on la fuit. Là, je pense que c'est vraiment lié à l'écriture de Luc. C'est quelque chose qui nous ramène tout le temps à ça, et donc c'est une des particularités pour cette série de son écriture. Et d'ailleurs, en tant que dessinateur, c'est quelque chose qui, par moments, est un petit peu pesant. C'est peut-être aussi ce qui m'amène à pousser et à être méticuleux, à m'amuser un peu aussi sur des détails, des décors, parce que par moments, je pourrais faire du flou derrière les personnages, ça ne porterait pas à conséquence, les gens liraient et je pense seraient entraînés dans l'histoire, mais j'ai des moments où j'ai besoin, moi, d'igresser un peu, pas uniquement dans les âmes, mais aussi un peu dans les formes. Ouais. Donc voilà.
Le choix des lavis de gris, c'est quelque chose que vous avez imposé tout de suite
ou... Non, au début, nous sommes partis sur des planches. J'avais abordé une toute autre technique, c'était de l'acrylique, c'était non pas des camaïeux, mais des couleurs classiques représentant l'époque, mais avec une imagerie de notre époque. Quand je faisais mes recherches, par contre, de personnages, de lieux, d'objets, je travaillais avec des camailleux. Et quand Luc les a vus, il m'a dit qu'il était plus tenté de voir le bouquin sous cet angle-là. Et je lui ai dit qu'effectivement, je faisais mes recherches comme ça parce que quand on évoquait cette époque, toute l'iconographie, sauf les peintures, étaient en noir et blanc, et que effectivement, ce serait une bonne chose, ça donnerait du crédit à notre univers, en fin de compte, et une réalité. Donc, pour moderniser cet aspect noir et blanc, on l'a teinté, on a décidé de l'identifier temporellement, puisqu'on balait les 50 dernières années du 19e, donc ce qui est dans les années 50, 60, jusqu'à 70, c'est un camailleux sépia, et dès qu'on passe le cap 80-90, où Holmes est plus prégnant et les souvenirs plus présents et plus près, là on est dans ce camailleux bleu métal un peu, quoi.
Quant à vous, Ludovic, j'ai cru discerner chez vous un certain plaisir à délivrer des formules. On dit des punchlines maintenant, mais j'en ai noté quelques exemples brièvement. Par exemple, page 66, « Croyez-moi, ce ne sont pas les étrangers que nous méprisons, mais les pauvres. » Ou page 149, « Il se sentait coupable, j'aime beaucoup ça là, il se sentait coupable d'avoir pris du plaisir à jouer Hyde, et prendre du plaisir à Londres était déjà presque un crime. » Ou page 180, « Pour survivre à Londres, il faut servir ou se vendre. » Ça vous vient comme ça, ou c'est un long travail d'accouchement ?
Non. Enfin, on s'immerge, et puis quand on a lu, parce que pour autant, j'imagine que pour Luc et Cécile, ça a été la même chose. En amont, on a travaillé pendant 6 mois, hein, pour l'écriture a pris 15 mois. Mais l'écriture, le scénario et les recherches biographiques, il y en a une pile comme ça, que ce soit des livres en anglais ou en français. Il a fallu relire Dracula, on a commencé par ça. Ensuite, relire les pièces de Shakespeare pour trouver les bonnes citations qui pourraient correspondre à la psychologie morbide de Jack. Plus, ensuite, faire revivre le théâtre victorien. Et se pencher sur les bios des personnages, donc Oscar Wilde qui était, tous les aphorismes d'Oscar Wilde sont disponibles et on s'est replongé dedans. Henry Irving avait réputation d'être quelqu'un d'assez rigide, assez égocentrique, difficile à gérer. Et c'était le travail de Stoker de le gérer. Donc, et puis Stoker aussi était un auteur. Et puis tous les personnages sont quasiment tous des auteurs. Hein. Il y a Thomas Oriol Kane à qui Stoker a dédié Dracula, qui est intervenu comme journaliste mais comme auteur. Il y a Oscar Wilde. Donc tous, ils ont... l'époque était au bon mot. L'époque était... on émaillait les romans de citations latines. Donc refaire revivre l'époque victorienne, c'est pas seulement décrire les câbles, les fumées, le pavé poisseux. C'était aussi l'esprit de l'époque, l'esprit... même si c'était le carcan victorien, le corset victorien, c'était le corps était vraiment... j'ai l'impression que le corps était très, très caché, puisque les robes descendaient jusqu'aux chevilles des femmes. Les meubles étaient recouverts de draps. Le corps était un problème, puisqu'on disait même pas qu'une femme était enceinte, elle était en voie de famille. Elle n'était pas enceinte. Hein. La maternité était quelque chose de... Comme c'était un petit peu... ça évoquait un petit peu l'animalité. Donc, on disait qu'elle était en voie de famille. Elle est mariée en voie de famille. Donc, comme le corps était corseté, il fallait que l'esprit se libère. Et cet esprit-là, les bons mots d'Oscar Wilde ont émaillé le 19e siècle. Il avait du talent, trop de talent. C'est peut-être ça qu'il a payé, d'ailleurs, puisqu'il a fini jugé, condamné, emprisonné. Et dans la misère, sans l'intervention de Georges Bernard Shaw à Paris, il serait mort totalement indigent. Et donc, il fallait convoquer cet esprit victorien. Donc, il a fallu travailler. Mais comme on voulait, on allait dans la direction, comme disait Cécile tout à l'heure, sur la loupe, sur la mise en sur l'effet de réel et pour montrer le côté effroyable de l'époque, il fallait qu'on émaille parfois le récit et les dialogues des personnages. On les anime avec ce genre de punchline. Et effectivement, Oscar Wilde, tout au long du... qui sert un peu de moraliste au roman et qui est notre porte-parole à Pierre et à moi. Donc oui, effectivement, il y a certains mots qui arrivent pour décrire des époques qui sont un petit peu... C'est des actions et des conditions de vie absolument révoltantes de l'époque. La condition des ouvrières qui étaient empoisonnées au plomb et qui mouraient dans la rue ou au London Hospital parce que... Elles s'empoisonnaient, elles vivaient dans des conditions beaucoup plus désastreuses que les prostituées. Et c'est, je crois que c'est Mary Kelly qui dit à Bram Stoker, à Londres, c'est servir ou se vendre. Effectivement, c'est ce qu'elle elle a essayé de mener une vie honnête. Et elle s'est aperçue qu'elle était encore plus misérable qu'en vendant son corps. Donc effectivement, ces punchlines sont là pour rappeler que les conditions de vie étaient effroyables, que l'époque était... on fantasme sur une époque victorienne, mais dans les faits, quand on met la loupe, comme dit Cécile, quand on regarde de près, quand on regarde l'East End, Jack l'Éventreur, c'est juste le mal de en trop qui a fait qu'on se souvienne de ces femmes, mais les conditions de vie étaient vraiment... et pour montrer ça, pour rappeler ça, il fallait faire mal, il fallait frapper, on n'avait pas de couteau, donc on avait les punchlines, voilà.
Et Londres, alors, finalement, parce que vous parlez de Londres, effectivement, à cette époque qui est pas un contexte très en dehors de la bourgeoisie et de la noblesse pour les classes populaires, un contexte particulièrement difficile. Mais j'ai l'impression que vous avez tous les deux un rapport assez affectif avec cette ville. Alors, est-ce que je me trompe ou comment s'est-il constitué, en fait?
Alors, pour mon cas, je la connais peu. Je m'y suis rendu une fois. Je vais y retourner là, cet été. Et effectivement, quand on va dans cette ville, moi, je la trouve fantastique sur le plan visuel, dans la façon dont l'ergonomie même de la ville. Elle est immense. C'est vraiment une ville pour les jambes, qui fait bosser les jambes. Et par contre, ça a été effectivement notre centre parce qu'il y avait ce It's End. Et je pense que, bon, nous, la misère, elle était aussi présente à Paris, mais ce quartier avec, en plus, cette histoire de Jack derrière tout ça, qui lui-même, est en fin de compte, porte ce patronyme en lien avec une autre légende, avec un personnage bondissant, je sais plus comment il s'appelait.
Jack Springfield Jack.
Voilà.
Désolé pour l'accent.
C'est la fascination, je pense, de Londres, c'est qu'elle venait... Elle vient d'un contraste perçu, c'est-à-dire d'une extrême misère et de beaucoup de richesses. Et sans demi-mesure, sans lien, c'est-à-dire cohabitant, côte à côte, comme ça. Et c'est surtout cette fascination. Et en plus, c'est aussi visuel, c'est-à-dire que tout ce qui est bourgeois est vraiment sublime à dessiner, et tout autant la misère et l'horreur du East End. Ce chaos, cet amoncellement, ces rues, enfin voilà, c'est ce jeu de contraste qui fait que effectivement cette ville est fascinante. Et en plus, elle est le berceau de ce système. Donc c'est un goût et pour la ville dans la façon de circuler, ce qu'elle est visuellement dans sa beauté et en même temps dans son horreur. C'est vraiment le double face, quoi. Donc, voilà, ma fascination vient de là.
Oui, c'est dans la direction de Cécile. C'est une ville... oui, c'est double face. C'est une ville horrible et maléfique et très séduisante. Elle est devenue aussi un mythe. Elle est comme Jack. C'est ce Londres victorien. Et il imprègne les romans, il imprègne les films, les séries. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de séries... je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a tellement, mais elle fascine, c'est devenu un personnage à part entière, c'est devenu une mythologie, ses rues, ses monuments, voilà, on dit British Museum, on imagine, on dit Whitechapel, on a des images, il y a très peu de villes comme ça qui arrivent à susciter des images dans l'inconscient collectif, donc c'est toute une mythologie, Londres, c'est une ville-monde, avec deux mondes qui se font face, qui s'attire et qui se repousse, puisque Stoker, on sait qu'il allait déguiser dans les... il allait s'encanailler, hein. Il y avait un terme anglais qui disait « to go slumming », hein, c'est aller dans les bas-fonds. Donc tous les gentlemen de l'époque victorienne, tous les dandies, c'est ce que fait Dorian Gray dans le roman d'Oscar Wilde, hein. Il va dans les fumeries d'opium, il va dans les bordels, il va se confronter à la noirceur du monde, il va se salir, parce que c'est trop propre, c'est trop tranquille, et le corps est enfermé dans le West End, et dans l'East End, il est libéré.
Jekyll et Hyde aussi, c'est le même principe. Hein.
C'est ça, c'est une ville de Jekyll et Hyde, voilà, le beau visage du West End, aristocratique, bourgeois, propre, bien éduqué, et l'East End Hyde qui attire, qui fascine, le mal, ça attire et fascine, et donc voilà, il y a cette ville-là, et il y a très peu de villes comme ça qui ont ces deux faces qui font qu'on a envie d'y aller, on a envie de travailler sur elles. Ouais.
Disons que ce que je trouve fascinant, c'est par exemple Paris va représenter le glamour, la légèreté, et je trouve que Londres, c'est l'âme. C'est vraiment comme si les hommes allaient se confronter à cette âme-là, à leurs propres âmes. Et quand on voit même ce que Jack London a fait, hein, c'est-à-dire en se rendant lui-même dans le East End pour enquêter, on sent que lui-même a été pris par cette fascination, a fini par s'y rendre, et il se confronte à lui-même aussi. Pourtant, il avait un bon background, mais là, il va jusqu'au bout de la confrontation avec lui-même, je pense, quand il va là-bas.
Oui, il a écrit le peuple de l'abîme. D'ailleurs, qu'on a relu pour l'occasion. Et effectivement, il est allé en 1903, je crois, juste 1904, ouais, quelques années après, quelques décennies après les crimes de Jack l'Éventreur. Et il a été vivre comme les ouvriers. Donc, il raconte les asiles de nuit, il raconte la vermine, la nourriture, il raconte l'horreur, quoi. C'est un vrai travail de journaliste, c'est un documentaire, le livre est un témoignage. Il a passé un mois ou plus d'un mois donc il avait une petite chambre dans un hôtel du West End, et il changeait de vêtements, il gardait un peu d'argent sur lui qu'il cachait, et il partait dans l'East End, il allait à la rencontre, il allait parler aux ouvriers, il allait parler aux prostituées, il raconte les enfants qui... Il raconte des scènes absolument effroyables, oui. Je sais pas si on peut l'évoquer...
c'est terrible.
Voilà, donc il mangeait... Il y a une chose qui m'a... une chose effroyable qu'on raconte dans le roman, c'est les ouvriers qu'on empêchait de dormir la nuit, enfin tous les gens qui n'avaient pas l'argent pour se payer un lit dans les asiles de nuit, on les empêchait de dormir dans la rue, dans les parcs, donc il y avait donc s'ils étaient arrêtés et conduits en prison, on appelait ça porter la bannière. Il marchait sous la pluie toute la nuit, il passait des nuits blanches, donc en groupe ou seul, et il se cachait de la police, il fuyait la police, donc il allait dormir dans les parcs, mais il n'avait pas le droit de dormir. Voilà. Et comme il n'avait pas assez d'argent et qu'ils étaient épuisés quand ils avaient passé une nuit ou deux nuits ou trois nuits à dormir debout, comme les chevaux, ils ne pouvaient pas trouver de travail, donc ils étaient pris dans un engrenage, donc ils étaient tombés malades, ils tombaient dans l'alcoolisme, et ils mouraient dans la rue, comme les chevaux. D'ailleurs, il y a une photo assez célèbre d'un cadavre de cheval dans la rue.
Avec les enfants qui jouent autour.
Et voilà, ouais. Donc c'était ça l'East End. Donc Jack Léventreur,
finalement... Mais même, il y avait beaucoup de blessés dans les usines parce que les ouvriers ne dormaient pas. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de ne pas dormir, le matin, il fallait faire la queue ou pour l'asile de nuit ou pour le travail. De suite, très tôt. Et on laissait traîner les gens comme ça dehors jusqu'à pas d'heure pour des quantités très limitées de gens qui pouvaient ou travailler ou dormir. Donc ça faisait des quantités énormes de gens qui erraient, d'où le fait qu'ils fermaient systématiquement tous les parcs. Et il y avait, en fin de compte, l'Angleterre a eu une... Enfin, c'est assez horrible, mais mécaniquement, en fin de compte, elle vidait ses campagnes, faisait venir des gens en ville, les exploitait et essayait de les tuer au plus vite. Et c'était du roulement. C'est assez terrible. C'était une époque où l'Angleterre a vraiment été monstrueuse.
Oui, c'était une usine. C'était l'usine du monde à l'époque. Hein. Elle était ce que la Chine est aujourd'hui. Et elle broyait des corps. Je crois que le vrai problème, c'est le corps. Hein. La sexualité, oui. Le corps, elle broyait les corps. Elle les utilisait. Elle utilisait le corps des ouvriers, le corps des ouvrières. Tout à l'heure, je le disais, s'empoisonnaient au plomb quand elles travaillaient dignement. Elles s'empoisonnaient au plomb à 16 ans ou à 20 ans. Elles avaient les gencives toutes noires, elles ne souriaient pas, elles avaient les dents qui tombaient, elles étaient prises de tremblements parce que le système nerveux était paralysé par le plomb, et elles tombaient dans la rue, elles étaient amenées au London Hospital, et elles mouraient, et le London Hospital était en face des abattoirs. Voilà, donc qu'on vivait dans la légalité ou qu'on vivait dans l'illégalité en étant voleur, en prostituée, on finissait de toute façon, on mourait plus vite en étant honnête. C'est ce que la punchline dire, voilà.
Mais même quand on regarde les gens qui pouvaient, entre guillemets, dormir, en fin de compte, c'était des toutes petites pièces. Il y avait beaucoup de lieux, les gens à cohabiter. Et par exemple, sur une surface d'une pièce de 10 mètres carrés, ils dormaient en relais. Ils dormaient tous cumulés les uns sur les autres pendant tant d'heures, pendant que d'autres attendaient, ils se levaient. Et donner leur place au suivant.
Voilà, ils dormaient
Et il y avait des gens qui négociaient, en fin de compte, les salaires des ouvriers en temps de sommeil. Parce qu'ils s'exploitaient eux-mêmes. Hein. Tout le monde s'exploitait, c'était assez terrible.
Et ils dormaient à la corde aussi. Il y a une scène... Voilà, c'est-à-dire que quand il n'y avait pas assez de lit, on tendait une corde en travers d'une pièce et les gens dormaient. Imaginez que vous êtes sur cette chaise-là et vous allez passer toute la nuit. On tend une corde de ce mur-là à l'autre mur et vous allez dormir, accrocher la corde. Et quand le matin, ils arrachaient la corde, tout le monde tombait. Et imaginez rester 10 heures, une nuit, toute une nuit sur une chaise comme ça. Voilà.
Pour finir sur une note un peu plus positive, je voulais évoquer avec vous ce qui me semble... C'est la place de la femme dans vos deux œuvres est plutôt importante. Le personnage de Mary Kelly dans « Je suis le sang » est un des personnages principaux. Et notamment dans le tome 4 de Holmes, l'infirmière, toutes les femmes, c'est un album qui est dominé par les personnages féminins.
D'ailleurs, Luc l'a dédié à sa femme et à sa fille.
Oui, absolument. Et il me semblait que c'était que c'était sans doute dans deux récits très 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 noirs, peut-être un souci de mettre en avant les prémices de l'émancipation féminine.
Oui, et puis c'est vrai, il y a le personnage, on a tenu à ce qu'une des prostituées, une des victimes de Jack l'Éventreur, soit plus qu'un corps jeté sur le pavé. Démembré, parce que dans les films ou dans les romans, on voit toujours on voit les prostituées, on voit la scène de crime, on voit le crime avoir lieu, on voit la victime être qu'une victime finalement, elle crie, on voit des coups de couteau, le sang, et on voit plus qu'un corps sur le pavé. Et avec Pierre, on avait décidé dès le départ de prendre ce contre-pied. Donc on s'est dit, on oublie Scotland Yard, on oublie l'enquête et on va se focaliser sur le destin de ces gens. Et donc on a pris Mary Kelly qui va inspirer Stoker, qui va nouer une vraie relation, nouer deux relations. C'est une avec Mary Kelly, l'autre avec Jack l'Éventreur. Et Mary Kelly est effectivement dans son attitude, dans son franc-parler, dans sa façon de penser, elle est moderne. Elle est jeune, c'est la plus jeune des victimes. Elle a 25 ans à l'époque des faits. Elle est grande, elle est belle, elle a déjà une réputation. Elle est veuve et elle n'a pas le vécu. Et quand l'affaire commence, elle est à Londres depuis à peine un an. Et effectivement, elle va inspirer Stoker. Il va avoir un autre regard sur les femmes. Ce regard que les hommes à l'époque, comme je disais tout à l'heure, les femmes de la bonne société étaient corsetées, le corps habillé, elles étaient de bonnes épouses, de bonnes mères. Et Mary Kelly, c'est l'autre face, c'est la liberté, c'est l'aspiration à avoir un destin, être libre, ne pas avoir d'homme pour s'en sortir. Et donc elle inspire à Stoker une autre idée de la femme, une autre, effectivement, c'est les prémices, c'est une sorte de féministe, un personnage assez féministe comparé à la femme de Stoker qu'on aperçoit un petit peu dans le roman. Elle est l'autre face, c'est-à-dire la face qui faisait peur aux hommes, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance, l'intelligence, la vivacité, un corps et un esprit en mouvement, voilà.
Et pour notre cas, c'est la même démarche. Nous, on a pris comme icône Florence Nightingale, mais il y a la mère, il y a la femme de Watson aussi. Et effectivement, c'est la grande question en plus dans les romans de Holmes. C'est où est la place de la femme dans tout ça? Et donc, je ne peux pas trop en parler parce que c'est un élément très important de notre récit, cette notion. Donc effectivement, c'est l'époque où les femmes tentent d'exister, revendiquent au péril de leur vie. Elles sont malmenées, pas reconnues par les hommes. C'est que ce soit en France ou en Angleterre, j'entends en Europe, ça a été un rude combat pour qu'elles puissent être considérées comme des êtres pensants déjà. Et parce que je crois que jusqu'à très tard, même en France, la femme au 19e était, je ne sais pas si elle était avant ou après le débile mental ou l'enfant, mais c'était à peu près de ce gabarit-là, quoi. Et donc, voilà, quoi. C'est au-delà de tout ce que peut générer une société industrielle à cette époque-là. Même si elle émancipe à un moment donné la femme, et même si la femme se rend compte qu'elle peut exister, c'est quelque chose qui, actuellement, est même encore entamé. C'est-à-dire qu'il faut encore consolider. Donc, c'est un sujet très important de notre récit. Mais je ne peux pas trop dévoiler.
Juste si vous souhaitez évoquer vos projets à venir.
Ce que je disais, oui, non, mais je finis un premier roman en solo, un roman de fantasy que je vais présenter à la rentrée. Et voilà, après.
Après, ben moi, de mon côté, en parallèle de Holmes, je mets en place un projet plus pour la jeunesse, effectivement, qui reste à peu près à la même époque, mais sur un autre continent. Et avec ça tourne autour des Amérindiens. Et puis, effectivement, avec Ludovic, comme nous nous sommes rencontrés et que nous avons beaucoup de points communs sur cette époque victorienne, il y a un auteur et un personnage de fiction encore qu'on aimerait développer ensemble. Mais là, bon, il faut le temps qu'on ait posé nos propres projets pour pouvoir entamer celui-là.
Écoutez, merci beaucoup d'être venu assister à cette rencontre croisée entre Ludovic Lamarque, l'auteur de « Je suis le sang », aux éditions des Moutons électriques, et avec Cécile, auteur donc de la série Holmes chez Futuropolis, qui compte 4 tomes actuellement. Merci beaucoup.